Cet imbécile, nous commençons la philosophie première. C'est-à-dire le cours de philosophie première reprend le point de départ. L'année dernière, on avait vu pendant toute l'année le problème de la personne, qui, je crois, est le problème ultime, on le précisera, de la philosophie première. Alors, d'abord quelques petites notions très simples que vous trouveriez partout. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de philosophie première, de métaphysique ? Philosophie première, je crois que c'est le terme qu'on devrait prendre aujourd'hui. C'est comme ça qu'Aristote l'a appelé. Ce n'est qu'après qu'on a dit métaphysique. Ce sont les bibliothécaires qui ont fait ça. Les bibliothécaires, ce sont des hommes très très pratiques pour l'organisation. C'est ça qu'on demande à un bibliothécaire. On ne lui demande pas nécessairement de connaître tous les livres et le contenu des livres. Alors on voit très bien comment ils ont appelé métaphysique. Les livres d'Aristote ont disparu pendant un certain temps. Alors on a retrouvé, on a revu tous les livres physiques. Puis après, on s'est trouvé devant un livre. Tiens, c'est pas de la physique, qu'est-ce que c'est ? Métaphysique. Méta, ça veut dire après. Alors, après la physique, il y a quelque chose. Pas plus. Le terme métaphysique, donc, n'est pas d'Aristote. Et c'est lui qui a été le plus employé après. Alors aujourd'hui, après Heidegger, qui dit que la métaphysique doit disparaître, Heidegger a fait un enterrement de première classe avec tambour et trompette de la métaphysique. Alors parce que Heidegger a fait cet enterrement de première classe de la métaphysique, c'est pas la peine de la déterrer, ça nous est égal, nous reprenons le terme philosophie première. En disant que tout ce que Heidegger a dit sur la métaphysique, en disant qu'il l'enterrait, ça ne porte pas sur la philosophie première. Il faut être très net là-dessus. Parce que Heidegger n'a pas a compris la métaphysique telle que la scolastique décadente de Wolff l'apprenait. C'était l'ontologisme. Si vous regardez bien, c'est ça que Heidegger a compris. Donc il n'a absolument pas compris la position d'Aristote. Alors Aristote, lui, parle de philosophie première. Et si vous voulez bien, nous dirons philosophie première, en sachant très bien que pour nous, philosophie première, comme pour saint Thomas, égale métaphysique. Pour saint Thomas. Saint Thomas parle tout le temps de la métaphysique comme la philosophie première. On peut très bien le dire, mais étant donné le contexte philosophique d'aujourd'hui, j'aime mieux ne pas employer métaphysique. À cause de Heidegger, vous voyez, qui dit que la métaphysique, pratiquement, a existé pour un temps. Mais maintenant, il faut, alors Heidegger appelle ça une ontologie fondamentale. Ça, c'est le terme de Heidegger, ontologie fondamentale. Alors, je parle d'Heidegger parce que Heidegger est le dernier grand philosophe. Hein. C'est vrai, Heidegger a quand même une certaine taille, une certaine dimension. Je crois qu'Heidegger, c'est notre Platon moderne. C'est notre Platon moderne. Heidegger n'aimait pas du tout Platon parce qu'il est très proche. Alors, c'est tout à fait du Platon, c'est ça. Si j'étais platonicien, je serais heideggerien. Et comme je ne suis pas platonicien, je ne suis pas heideggerien. Je crois qu'Heidegger il a saisi d'une façon très étonnante ce que c'est que la qualité. La philosophie heideggerienne est une philosophie de la qualité comme celle de Platon, qui est une philosophie de la forme. Or, la qualité, c'est la forme. C'est la noblesse. On verra ça progressivement. Mais vous voyez, lui, il prend l'ontologie fondamentale qui consiste tout simplement pour Heidegger à dire « je pensais l'être ». Penser l'être. Pour lui, c'est ça l'ontologie fondamentale, c'est penser l'être. Alors que la métaphysique reste dans les étangs. Les étangs, c'est-à-dire les réalités qui existent, limitées. La métaphysique reste au niveau des étangs. Or, Heidegger considère que les étangs, c'est le domaine de la science, et que le philosophe de l'ontologie fondamentale, c'est penser l'être. On y reviendra, hein, parce que maintenant, je ne vous demande pas de penser l'être. Le vieux père Mandonné, qui était un bon historien bourguignon, ça ne cachait, il avait du gros bon sens. Alors il disait, oui, penser l'être, hein. Parler de la métaphysique. La métaphysique, c'est quand on a 40 degrés de fièvre. Alors il y a un petit nuage. Un petit nuage qui se balade au plafond. C'est ça la métaphysique, c'est le petit nuage, attraper le petit nuage. Ça, c'était l'historien, vous comprenez. L'historien a toujours beaucoup de peine de comprendre ce que c'est que la philosophie première et la métaphysique. C'était ça, petit nuage. Comme il donnait la définition merveilleuse de l'exégète. L'exégète, il n'a pas beaucoup d'herbe à brouter. Alors, c'était exactement comme la vache attachée à un poteau. Vous voyez, au bout d'un certain temps, c'est bien rasé hein, autour. Et alors, elle tend la corde pour prendre l'herbe à côté, qui est belle, qui est encore grande, et elle n'y arrive pas. Alors, c'était l'image qu'il avait de l'exégète. En disant, l'exégète sort de sa méthode pour saisir autre chose. Vous voyez, c'est très joli, ça fait comprendre ce que c'est. Ça m'est resté, ça. Alors, la métaphysique, on voit très bien un historien la métaphysique. La métaphysique n'a pas d'histoire. C'est très embêtant pour un historien. Elle n'a pas d'histoire, la métaphysique. Ici, je traite du point de départ, la source première. Le point de départ de la métaphysique, ce qu'on appelle métaphysique, c'est la philosophie première d'Aristote. Et Aristote est le premier à parler de la philosophie première. C'est pour ça qu'il est quand même le père de la philosophie première, qu'on a appelée métaphysique. Pour Aristote, la philosophie première regarde ce qui est en tant qu'il est. Je traduis ce terme très difficile à traduire. Grec, le to on et on. Traduisez en latin, il faudrait le traduire après en arabe. Et ça, oui, parce que les arabes ont repris Aristote, il ne faut pas oublier. La grande culture arabe, c'est de prix Avicenne et Averroès, ont repris Aristote. C'est l'avantage de regarder Aristote, c'est qu'Aristote, on est à la source des grandes cultures philosophique. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est très important. J'ai un de mes anciens élèves qui enseigne la philosophie à l'université de Damas. Et qui enseigne Aristote. Et qui enseigne Avicenne. Alors, le ens in quantum. Ens. Alors, pour saint Thomas, ens, c'est ce qui est. Donc, ens, ce qui est. Ce qui est in quantum, en tant qu'il est. Donc la philosophie première, on essaiera de comprendre. Hein. Il faut se casser tout de suite les dents sur quelque chose. Hein. Pour Aristote, qui est le premier, c'est l'origine. Avant, c'est Platon. Et pour Platon, la philosophie première, il ne parle pas d'une philosophie première, il parle d'une philosophie, d'une dialectique. Aristote est le premier à avoir inventé. Il l'a découvert. Donc le pionnier, si vous voulez, il faut donc le saluer au point de départ. Et puis l'enterrement de la métaphysique Heidegger. D'Aristote à Heidegger. Jusque-là, on l'acceptait. Métaphysique, on pouvait dire métaphysique. On donnait un cours de métaphysique et dans les programmes officiels, on donnait un cours de métaphysique. Heidegger, lui, a enterré la métaphysique. C'est-à-dire, la métaphysique devait exister, mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que la métaphysique, c'est penser l'être. Il faudra comprendre ce que ça veut dire. On le verra, ne vous inquiétez pas. Il appelle, lui, penser l'être, l'ontologie fondamentale. Pourquoi ? Parce que, de fait, Aristote, philosophie première, les bibliothécaires, métaphysique. Métaphysique, après la physique. Puis, dans ce qu'on appelle la scolastique, à partir du XVIIe siècle, on va l'appeler l'ontologie. La métaphysique, c'est l'ontologie. Wolf. Et Heidegger dit l'ontologie fondamentale, parce que l'ontologie de Wolf, qui s'identifie avec la métaphysique, regarde les étangs. Il faut donc revenir à quelque chose de plus fondamental, qui est l'être. C'est pour ça qu'il l'appelle l'ontologie fondamentale, vous voyez ? Parce que entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie, vous voyez bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Logos, logie. C'est le logos de ontos. On, to, on, ontos. Donc, c'est le logos de ce qui est. L'ontologie, c'est le logos de ce qui est. Mais voyez la différence, hein ? Le logos de ce qui est vous ne dit plus en tant qu'être, en tant qu'il est. Regardez donc les réalités existantes. Et donc c'est vrai ce que dit Heidegger, on regarde les étangs. L'ontologie regarde les étangs, alors que pour Aristote, les étangs, c'était le point de départ, mais on regardait les étangs du point de vue de l'être. Alors il y a eu une scission, et c'est très curieux de voir ça. Les étangs, ben, vous êtes un étang, hein, vous aussi. C'est comme ça, quoi, nous existons, c'est tout ce qui existe, quoi, tout ce qui existe, c'est toutes les réalités qui existent. Toutes les réalités qui existent, ce sont des étangs. À la différence des réalités possibles, qui n'existent pas actuellement. Aristote disait, en tant que elles sont. Donc il y a une formalisation, ce qu'on appelle une formalisation, pour regarder les étangs sous un point de vue particulier, sous le point de vue de l'être. Et le « en tant qu'il est », Heidegger le prend « penser l'être ». Il formalise, oubliant le point de départ. C'est très curieux. On a coupé en deux le « Toon Eon d'Aristote, on l'a coupé en deux. Les ontologistes, comme Wolf, regardent le Toon, et Eon en tant qu'il est, Heidegger. C'est assez amusant de voir ça. Alors qu'Aristote, de fait, regarde ce qui est en tant qu'être. Donc, vous avez, il faut le savoir ça, vous avez trois expressions. Philosophie première, métaphysique, ontologie. Il y en a d'autres, mais elles sont secondes. Ce sont les trois principales. Qui regardent de fait la même recherche de ce qui est en tant qu'il existe. En tant qu'il est. Ceci, c'est pour que vous compreniez le titre du cours. Simplement ça. Une étiquette. Et je dis... Je n'emploie ni ontologie fondamentale, ni métaphysique, mais j'aime mieux employer le terme d'Aristote, philosophie première. Parce que celui-là, il a été respecté par Husserl. Husserl parle tout le temps de la philosophie première. Le terme de philosophie première a cours. Et métaphysique, tout de suite, vous entrez, fou, métaphysique, mais c'est fini, c'est périmé, Heidegger l'a supprimé. N'entrons pas dans la discussion. Et comprenons que tout simplement, nous reprenons le terme initial, c'est du reste normal, propre à Aristote. L'autre terme est un terme second. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie première ? Hein ? Une fois que j'ai la dénomination, je vais essayer de comprendre comment... Il y a nécessairement, pour quelqu'un qui est intelligent, or vous l'êtes, donc il y a nécessairement, pour quelqu'un qui est intelligent, le problème de la philosophie première. Vous pourriez intituler ça de la nécessité de poser une philosophie première. Moi, j'ai fait la philosophie première, pas parce qu'Aristote en a fait, vous comprenez? J'aime beaucoup Aristote. Mais il faut toujours dire ce qu'Aristote a dit de Platon, vous savez, cette fameuse parole. Platon, je l'aime beaucoup, comme la vérité, mais la vérité plus que Platon. J'aime beaucoup Aristote et la vérité, mais la vérité plus qu'Aristote. Et Aristote est content quand on dit ça. Parce qu'on doit aimer la vérité plus que tel ou tel professeur de philosophie. Tel ou tel philosophe, c'est la vérité qu'on cherche. C'est pas la pensée d'Aristote que je cherche. Je me sers d'Aristote. Ça m'intéresse, Aristote. Mais si je suis philosophe, je me sers d'Aristote comme d'un ami. Et on fait encorder. On s'aide mutuellement. On entre dans un dialogue mutuel. Et on essaie de comprendre, on essaie d'aider. Donc, j'essaie de prendre dans Aristote ce qui me semble être actuel. Qu'est-ce qui est actuel? C'est que Aristote, parlant de philosophie première, distingue donc philosophie et philosophie première. Autrement, il dirait tout simplement philosophie. Pour Aristote, il y a diverses parties de la philosophie. Et c'est important de voir ces différentes parties de la philosophie. Il n'y a pas qu'une philosophie. À la différence de la dialectique, c'est la dialectique. Alors elle a des parties différentes, mais c'est uniforme. Tandis que la philosophie, pour Aristote, a des parties différentes. Pourquoi? Parce que pour Aristote, la philosophie, c'est la philosophie de l'expérience. Et Aristote dit ça en face de Platon. J'espère que vous voyez à peu près les dates d'Aristote et de Platon. Vous savez que Aristote a été 20 ans à l'école de Platon et Platon a été 8 ans à l'école de Socrate. Vous avez donc Socrate, Platon, Aristote. C'est notre trinité philosophique. Socrate, Platon, Aristote. Ça, il faut bien les connaître. Socrate s'oppose aux sophistes. Socrate, c'est très simple, il n'a pas écrit. Heureusement. Ça, c'est plus vite fait. Mais c'est quelquefois beaucoup plus difficile aussi de savoir. Socrate a eu cette chose extraordinaire d'avoir un disciple très intelligent. Platon. Et surtout très brillant. Platon. Et Platon a aimé Socrate. Et Socrate a aimé Platon. Et Platon a eu l'immense privilège d'avoir un disciple très intelligent. Aristote. Pendant 20 ans. Vous voyez ça? 20 ans. Si vous me demandiez de faire 20 ans de philosophie, je vous dirais non, 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 non. Et pourtant, il n'a pas hésité de faire 20 ans à l'école de Platon. Et à la mort de Platon, ce n'est pas Aristote qui a pris la succession de l'Académie. C'est un autre, beaucoup moins capable, beaucoup moins intelligent. Il y a eu des coteries, toujours, hein, comme ça. C'est vieux, ça. Et alors Aristote est resté seul et a fondé une autre école. Et c'est ce qu'on appelle alors l'école, le lycée et l'académie. L'académie, c'est Platon et le lycée, c'est Aristote. Facile à retenir, c'est le lycée. Ça commence là, le lycée. Et en fond, il y a une scission qui s'est faite, une séparation, non seulement dans les idées, mais dans les écoles. Donc par rapport aux personnes, c'est très curieux ça. Ça montre la difficulté, vous voyez, au point de vue philosophique, de maintenir une recherche commune. C'est vrai, c'est un des problèmes très, très curieux dans l'histoire de la philosophie, c'est de voir la diversité des philosophes. Tous recherchent la vérité, et tous s'arrêtent à des niveaux différents. on gravit la grande montagne de la vérité, on s'arrête à des niveaux différents. Il y en a qui s'arrêtent à 100 mètres, 200, 500, 1000 mètres. Je crois que c'est une question de profondeur. Parce que tout philosophe, comme philosophe, essaie de faire une synthèse. Tout philosophe, comme philosophe, essaie d'être exhaustif, de parler de l'homme dans sa totalité. Alors, comme il essaie de parler de l'homme dans sa totalité, forcément, il va partir de ce qu'il a compris, essayer de donner un jugement sur tout le reste. Donc, au fond, il faut toujours regarder le sommet d'une philosophie. C'est toujours ça qui m'intéresse, moi. C'est de regarder le sommet. En Suisse, il y avait le ski de printemps, qui était le sommet. On faisait le tour de la Suisse, comme ça, voir les sommets. Le ski de printemps. Parce qu'il y avait des sommets qui restaient encore. On pouvait faire encore du ski. Tandis que, quand vous descendiez, il n'y avait plus de neige. Et je crois que c'est très intéressant de regarder le sommet d'une pensée philosophique. Et le sommet d'une pensée philosophique pour Aristote, c'est la philosophie première. La philosophie première, elle est première dans l'ordre de nature. Elle est ultime, elle est la plus élevée. C'est le sommet, c'est l'Himalaya. C'est quelque chose qui va très loin. C'est très élevé. C'est pas le mont Tabor, si saint qu'il soit. C'est pas le mont Sinaï, si saint qu'il soit. C'est quelque chose qui dépasse. Philosophie première. Et pourquoi Aristote m'intéresse, c'est pas parce que saint Thomas l'a aimé. C'est une petite indication. Saint Thomas avait sûrement bon goût. Saint Thomas a aimé Platon, mais il a beaucoup plus aimé Aristote. Saint Thomas a aimé Avicenne, mais il a beaucoup plus aimé Aristote. Il a voulu retourner à la source. Alors, c'est intéressant de voir ça. Pourquoi saint Thomas a-t-il aimé Aristote? C'est une des questions qu'il faut se poser. Pourquoi saint Thomas a-t-il aimé Aristote? Et pourquoi, de fait, nous aimons Aristote? J'aime beaucoup Platon. Platon, ça me repose. Aristote, ça me fait travailler. Platon, c'est reposant. On peut lire Platon dans un bon fauteuil, bien rembourré, en fumant sa pipe. Le soir, auprès d'un feu, on peut lire du Platon. Tandis que de l'Aristote, c'est très difficile. Lisez Aristote en fumant votre pipe, c'est très très difficile, parce que ça demande du travail. Aristote analyse, Platon n'analyse pas. C'est pour ça que Hegel dit Aristote seul forme. C'est quand même intéressant de voir ça. Quand vous êtes en face d'un hegelien, demandez-lui s'il est aristotélicien. S'il dit qu'il n'est pas aristotélicien, vous êtes un mauvais hegelien. Puisque Hegel dit lui-même, dans l'histoire de la philosophie, que Aristote seul forme, c'est pas Platon qui forme. C'est intéressant de voir que, de fait, quelqu'un comme Platon, quelqu'un, je veux dire quelqu'un comme Hegel, quelqu'un comme saint Thomas, reconnaissent qu'Aristote seul forme. Et je dirais que seul Aristote forme, au plan philosophique. C'est dur d'entrer dans Aristote, c'est très dur. Mais je crois que si on veut faire de la philosophie sérieusement, il faut se casser les dents. Et se casser les dents, c'est aller là. Parce que ça, c'est l'analyse. Alors, essayons de comprendre pourquoi nous prenons Aristote comme guide. Je ne répète pas Aristote, mais comme guide, et non pas Platon. C'est que, quel est le point de départ de la philosophie d'Aristote? Je poserai ensuite quel est le terme. Quel est le point de départ? Quel est le premier dans la philosophie d'Aristote? Aristote nous dit que la philosophie commence par l'expérience. Il dit ça face à Platon. Pour Platon, la philosophie commence comment? Par la réminiscence. Pour Platon, le philosophe, c'est celui qui se rappelle ce qu'il a vécu dans le temps. Rappelez-vous bien ce que vous avez vécu dans le temps, quand vous n'étiez pas uni à votre corps, quand vous étiez un être très spirituel. Maintenant, vous êtes alourdi par votre corps. Quand vous étiez un être très spirituel, vous étiez un contemplatif. Rappelez-vous ça. Si vous êtes platonicien, si vous n'êtes pas platonicien, vous dites non, je ne m'en rappelle pas. Je ne sais plus. Un chauffeur de taxi qui me disait qu'il se rappelait très bien que dans le temps, il était grec. Elle a dit, alors parlez-moi grec. Ah, j'ai perdu la langue. Mais je me rappelle que j'étais grec. Alors là, c'était très bon. Et pour Platon, il y a la réminiscence. On se rappelle qu'il y a un moment donné, on était au-delà du corps. Il y avait l'âme séparée. Et la philosophie commence par là. La réminiscence, vous voyez bien ce que c'est que la réminiscence. C'est donc comme une sorte d'inspiration. On peut dire que c'est une sorte d'inspiration, un souvenir ancien, mais au fond, en réalité, c'est une inspiration. Mais la réminiscence ou l'inspiration, c'est très bien comme commencement. Mais si je ne l'ai pas, si je n'arrive pas à me rappeler ce que j'étais avant d'être uni dans mon corps, je ne peux pas être platonicien. J'accepte Platon comme un a priori. Platon dit ça, très bien, Platon le dit. Mais moi, je n'ai pas l'expérience. Je n'ai pas l'expérience, moi, peut-être que vous. Si vous l'avez, vous me le direz. Je n'ai pas l'expérience de ma contemplation avant d'être uni au corps. De mon âme qui faisait partie, c'est dans le Phèdre que Platon dit ça, mon âme qui faisait partie du cortège des dieux. C'est admirable. Je faisais partie du cortège des dieux. Oui, j'étais un petit page. Je suivais le cortège des dieux. Vous vous rappelez bien, vous étiez pur contemplatif. Et maintenant, vous êtes alourdi avec votre corps, vous touchez les choses. Il y a eu une chute. Je ne me rappelle pas de ça. Donc, je ne peux pas suivre Platon. Il y a aussi la philosophie de Parménide qui commence par l'inspiration. C'est très bien l'inspiration pour l'artiste. L'artiste, s'il a une inspiration, il fera un chef-d'œuvre. S'il n'a pas d'inspiration, il va copier. Mais l'artiste, c'est très bien parce qu'il est seul à faire ça. Je ne vais pas suivre le philosophe. Il essaie de comprendre la réalité dans son objectivité pour qu'il puisse la communiquer à tout le monde. C'est pour ça qu'Aristote refuse que le point de départ de la philosophie soit la réminiscence et l'inspiration. Et il dit le point de départ, c'est l'expérience. Pourquoi l'expérience? Parce que, de fait, si j'essaie de comprendre, de réfléchir sur ma pensée actuelle, parce que je fais de la philosophie maintenant, vous n'avez pas fait beaucoup de philosophie avant. Dans votre berceau, je ne crois pas. Je ne crois pas que vous avez pensé l'être dans votre berceau. Moi, pas moi. Peut-être vous. Possible. Mais vous l'avez oublié depuis. Je commence à faire de la philosophie. J'essaie, le propre d'une philosophie, penser, chercher ce qu'est l'homme. Dans toutes ses dimensions. Quel est le point de départ de ma réflexion? C'est bien l'expérience qui apparaît comme le premier contact que j'ai avec quelque chose, quelqu'un autre que moi. Alors, il y a l'expérience interne et l'expérience externe. Alors, est-ce que je vais commencer la philosophie par l'expérience interne? Platon, d'une certaine manière, commence par l'expérience interne, l'inspiration. L'inspiration, c'est une expérience interne. Saint Augustin, qui est un platonicien, converti, commence sa philosophie par l'amour. L'amour, c'est une expérience interne. J'aime. J'aime. Quand je dis j'aime, oui, tout le monde, on sait ce que c'est qu'aimer, mais c'est l'expérience interne. Je pense. Descartes, cogito, cogito. je pense. C'est une expérience interne, je pense, parce que je ne le vois pas que vous pensiez. Chaque fois que vous pensez, vous n'allez pas devenir rouge, écarlate. Ce serait merveilleux, vous en verrez. Il va éclater, il pense. Il pense. Ça chauffe. Ça chauffe, il pense. Non, on pourrait dire ça quand il aime, oui. Quand il aime, il commence à chauffer. Mais penser, non, on peut penser de façon très glaciale. Et il vaut peut-être mieux même. Peut-être mieux, on voit mieux les choses. Penser l'expérience interne. Je dis, c'est pas suffisant l'expérience interne. Parce que toute expérience interne présuppose une expérience externe. Toute. Pour aimer, mais il faut d'abord avoir rencontré quelqu'un. Et c'est en rencontrant quelqu'un que j'ai fait attention à lui, que je me suis mis à l'aimer. Pour penser, mais j'ai rencontré une réalité. Et je me suis mis à penser. Donc, avant l'expérience interne, il y a l'expérience externe. L'expérience externe se sert de nos sens, de nos sensations. Le toucher. Vous voyez, l'immense avantage de l'expérience externe, c'est qu'elle est communicable. Je peux dire à quelqu'un, je touche cette table. Cette expérience du toucher, vous la voyez. Venez ici, puis vous toucherez ça. Et vous pouvez toucher votre table, c'est la même chose. Celle-ci est un peu plus froide, peut-être, parce qu'elle est blanche. Elle est un peu plus froide que la vôtre. Mais ça, c'est accidentel. Je touche quelque chose. Je touche une réalité extérieure à moi. Quand vous vous réveillez le matin, petite expérience de tous les matins, réveil brutal par le réveil, comme si c'est brutal d'avoir inventé le réveil. On devrait être réveillé par le chant du coq. On devrait être réveillé tout simplement. Non pas de sa belle mort, mais de son beau réveil, quoi. On a dormi assez, très bien, on se réveille. Cette espèce de violence qu'on fait, cette violence terrible qu'on fait au sommeil, on se réveille par la cloche, on se réveille par le... c'est effrayant. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on n'arrive plus à dormir. Parce qu'on a tellement été violenté dans son réveil, dans le fait de dormir, hein, pendant toute sa vie. C'est terrible. Vous le verrez si... Hein? Moi j'ai pas envie, j'ai envie de me. Je dors plutôt le matin, je me repose le matin. Non, je dormirai bien jusqu'à 8 heures. Hein? Et vous me réveillez. L'expérience du réveil qu'on fait tous les matins, on passe d'un domaine imaginatif à toucher quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Vous regardez votre réveil. Si vous êtes très saint, vous faites une prière. C'est un Seigneur, c'est merveilleux cette journée que vous me donnez. Alors comme ça, la mauvaise humeur disparaît. Tandis que quand vous regardez vos réveils, oh, espèce d'imbécile de m'avoir réveillé. Pourquoi m'as-tu réveillé encore ce matin? On voit très bien que tu ne penses à rien. Et tu m'as réveillé brutalement. J'étais dans un songe merveilleux. Un rêve étonnant. J'étais au paradis. J'étais avec des amis. Puis tu me réveilles. Et je vois que bon, se réveiller. Puis il faut aller vite. Vite, puisque on dit qu'au bout d'un quart d'heure, il faut être à la chapelle. Bon, vite, dépêchons-nous. Vous voyez, impitoyable. Réveiller tout de suite pour aller. Tout de suite. L'expérience que vous faites, c'est quoi? Le passage de l'expérience interne à l'expérience externe. C'est ça, se réveiller. Vous vous réveillez quand vos sens externes sont en acte. Tant que vos sens externes ne sont pas en acte, vous ne vous réveillez pas. Il y a des gens qui ne se réveillent qu'à 10 heures du matin. Ils sont un peu somnambules, vous savez. Ils continuent de dormir. Oui, je suis réveillé, oui, mais non, puis je continue mon rêve. Puis ils continuent, leur raison. Oui. On a baptisé un tout petit peu ce rêve, ça n'a pas d'importance. Puis tout d'un coup, on se réveille. Ah oui, bol de café, oui, alors là, je me réveille, c'est chaud. Sens externe. Quelquefois, on se réveille qu'à ce moment-là, parce que c'est chaud. Ça brûle la langue. Alors, on se réveille. Oui. Passage du sens externe. Et pour Aristote, la philosophie commence avec l'expérience externe. C'est toute la différence entre Aristote et Platon. Voilà le passage entre les deux. Et ça, c'est très important parce que c'est tellement actuel. Toute la phénoménologie du CERL commence la philosophie par l'expérience interne. Donc vous avez Platon, Husserl, toute la phénoménologie. C'est quand même très important. Or, pourquoi, c'est ça qui est important de le voir, pourquoi je ne m'arrête pas à l'expérience interne? Tout le monde serait d'accord avec moi. La philosophie aujourd'hui qu'on vend sur le marché, c'est la phénoménologie. Lévinas, c'est la phénoménologie. On réfléchit. C'est la philosophie du gargarisme, vous voyez ? On réfléchit sur ce qu'on vit intérieurement. On vit la tristesse, on vit la joie, on vit tout ce qu'on porte intérieurement. C'est peut-être très beau, c'est extraordinaire, mais il n'y a pas de contact avec ce qui est. On reste dans son rêve. On reste dans ses idées. On reste dans son affectivité. On reste dans ce que, philosophiquement, on appellera l'intentionnalité. Je vous donne tout de suite des mots barbares, hein. Ce sont des mots clés, aujourd'hui. L'intentionnalité. La phénoménologie reste dans l'intentionnalité. Qu'est-ce que c'est que l'intentionnalité ? C'est tout ce domaine de votre expérience interne. Vos rêves, vos imaginations, votre affectivité, l'intentionnalité. Et on ne touche pas la réalité existante autre que moi, autre que ma pensée. Pourquoi je ne peux pas m'arrêter à l'expérience interne ? Pourquoi je ne veux pas rester dans la pensée de Husserl. C'est que je veux aller plus loin. C'est pas suffisant. Parce que toute expérience interne, si riche qu'elle soit, présuppose autre chose. Or, ma pensée philosophique veut aller le plus loin possible. Le philosophe veut aller le plus loin possible. Il n'a pas le droit d'accepter quelque chose de partiel. Il n'a pas le droit de ne regarder qu'un aspect partiel des choses. Il doit aller le plus loin possible. C'est une pensée qui se veut exhaustive. Si c'est une pensée qui se veut exhaustive, nécessairement, il faut aller le plus loin possible. Et donc, je n'ai pas le droit de m'arrêter là. En m'arrêtant là, je suis encore dans une connaissance partielle. La connaissance, l'expérience externe ne supprime pas la connaissance interne. Mais je vois la source de la connaissance interne et je veux aller jusqu'au bout. Vous voyez, c'est là où il faut bien comprendre. Je crois que le propre de toute pensée philosophique, c'est d'aller le plus loin possible. Un philosophe ne peut pas s'arrêter en chemin. S'il s'arrête en chemin, c'est un a priori. M'arrêter à la sensation interne, c'est un a priori. Parce que je sais que toutes mes expériences internes présupposent autre chose. Je vis dans un milieu donné. Ce milieu donné nourrit ma vie intérieure. Mais ma vie intérieure, elle présuppose le contact avec d'autres réalités. Vous voyez, ça c'est capital, hein, parce que savoir à partir de quoi je commence à faire la philosophie. Je sais que l'expérience interne est très riche, mais l'expérience interne est seconde et n'est pas première. Réfléchissez là-dessus. Et alors si vous avez des difficultés, n'hésitez jamais. Vous les écrivez sur un petit papier et puis vous les donnez à vos parents. Et si vraiment cette difficulté, le parrain n'arrive pas à la répondre, il me la met sur ma table.